Voilà, je vous invite à entrer dans le culte et dans le silence. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu soit avec nous tous ce matin, qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte. Nouveaux venus et habitués, jeunes et moins jeunes, présents dans le temple ou présents à distance par le moyen des réseaux sociaux. À chacun, à chacune, Dieu renouvelle sa grâce et sa paix. En Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Père, par l'Esprit souffle de vie. Je vous invite à prier. Ce matin, nous te rendons grâce, notre Père, vérité qui éclaire, liberté qui délivre, tendresse qui fait tomber nos peurs et qui nous assure de ta bonté et de ta fidélité. Maintenant, que ton esprit nous tienne en communion avec toi et les uns avec les autres. Nous t'en prions au nom de Jésus le Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés du culte. Avant la louange, j'ai une petite histoire pour les enfants. Mais ceux qui ne sont plus des enfants ou qui l'ont été il y a un peu plus longtemps vont pouvoir en profiter quand même. Quelle chance! Vous pouvez rester debout, c'est une toute petite histoire, et puis après, ce sera le temps de la louange. C'est l'histoire d'un père qui lit son journal et qui a envie d'être tranquille pour lire son journal. Mais il a auprès de lui son fils, 6-7 ans, peut-être comme toi, Gabriel, et qui joue, et évidemment, quand un enfant joue, ça fait de l'animation, ça pose des questions, dit papa, comment je fais, dit papa, pourquoi, dit papa, est-ce que... Et au bout d'un moment, le père, qui voudrait lire son journal tranquille, prend dans un vieux journal une image avec, vous savez, une carte de la Terre. Il la découpe en petits bouts, façon puzzle, mais sans les encoches qui permettent de bien s'y retrouver. Il donne tout ça à son fils, puis il dit, tiens, écoute, refais donc la Terre, et quand ce sera fait, nous jouerons ensemble. Et il se replonge dans son journal qu'il pense avoir le temps de lire tranquillement jusqu'au bout. Il n'a même pas le temps de finir toujours le même article que son fils revient et lui dit « Regarde, j'ai fait ». Stupéfaction du père qui regarde et effectivement, la terre est bien refaite, tous les continents à leur place, les mers, les océans à leur place. Il est très impressionné. Et il demande à son fils « Mais comment as-tu fait ?» Et le petit lui répond « Facile !» De l'autre côté, il y avait... une silhouette d'homme. Alors, j'ai rebâti l'humain et la terre a été refaite. Je vous invite à la louange et c'est Jacob qui va nous conduire dans cette louange.
Éternel, nous te remercions pour tout ce qui nous réjouit, pour les sourires qui s'adressent à nous, pour les mains qui cherchent notre main. Nous te remercions pour celles et ceux que nous aimons et pour celles et ceux qui nous aiment. Nous te remercions pour les grandes et les petites joies qui donnent à chaque jour son éclat indispensable. Nous te remercions pour celles et ceux qui sont là pour nous, pour celles et ceux qui ont besoin de nous. Nous te remercions pour cette vie reliée, animée, vivante que tu nous donnes. Amen.
Et nous louons encore en chantant le psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde, nous le chantons en entier.
Thank you.
prenez place. Et nous donnons aux enfants le temps de regagner la salle du deuxième étage pour leur séance de ce jour, qui est consacrée à la grande famille protestante, dans le thème général des frères et sœurs. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces paroles de l'Évangile selon Matthieu. C'est au début du grand discours de Jésus, dit le discours sur la montagne, les Béatitudes, c'est juste après les Béatitudes au chapitre 5, les versets 13 à 15. Donc Jésus parle et il dit à la foule, à ceux qui l'écoutent, « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession, en suivant cette prière qu'Abel va dire.
Dans le creuset de nos désirs, dans le secret de nos esprits, Éternel notre Dieu, prennent naissance des pensées, des actes et des paroles. Elles s'élaborent au long des jours. C'est là, dans nos cœurs et nos esprits, que germent et la miséricorde et la convoitise, et l'hypocrisie et la tolérance, et la droiture et la jalousie, et le courage et la peur. C'est pourquoi, Éternel, nous avons besoin d'une lumière pour apporter de la clarté à l'intérieur de nous-mêmes. Cette lumière nous est nécessaire pour résister au mal qui veut établir son emprise en nous et assombrir nos sentiments et nos comportements. Ainsi, nous pourrons élaborer et réaliser des pensées, des actes et des paroles selon l'Évangile. Éternel, sans toi, nous nous perdons. Amen.
Levez-vous, amis, frères et sœurs, pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel. Une lumière rayonne pour chacun, pour chacune, pour toi, pour lui, pour elle, pour moi. Cette lumière chasse l'obscurité. Cette lumière procure la joie. Cette lumière oriente au chemin de la vie. Cette lumière veut briller en nous, avec nous, à travers nous. Cette lumière nous aide, elle fait de nous des témoins d'amour dans le monde. Cette lumière est vie, est signe de vie. Et cette lumière, Jésus le Christ, brillera toujours pour toi, pour nous, pour tous. Amen. Nous chanterons au cantique 257 « Dieu des louanges soit béni ». Place. Le texte sur lequel va porter notre méditation ce jour est particulièrement à destination des jeunes du Caté, Abel, Jacob et Simon, qui sont là ce matin, mais vous en bénéficierez tous. Et c'est eux qui vont le lire, enfin c'est Simon, avec Abel, voilà. Et avant de l'écouter, nous allons prier. Nous t'en prions, Éternel notre Dieu. Donne-nous ton esprit de clarté qui fait lever ta parole dans les Écritures. Ton esprit qui met au cœur la prière nous ouvrant à ta présence. Ton esprit qui place notre foi en alerte. Ton esprit qui soulève nos vies. Amen. Et comme le parcours du catéchisme cette année est consacré à des paraboles, et bien c'est donc une parabole que nous allons entendre dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30.
Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu ? Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le-lui à ceux qui avaient 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave, inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Un talent, c'est de l'argent. Alors, il ne s'agit pas de talent que l'on peut monnayer, un talent artistique ou dans n'importe quel domaine. Dans cette parabole, un talent, ça représente de l'argent, et même beaucoup d'argent. Un poids d'or considérable, entre 25 et 30 kilos. Un talent, dans le monde de Matthieu, c'est exactement une mesure pour connaître le poids du métal précieux. Et ça pèse lourd. Mais lorsque nous entendons cette parabole en français, nous vient spontanément à l'esprit la compréhension du talent comme une aptitude particulièrement notable à la peinture, à la musique, un savoir-faire particulier, une capacité remarquable dans tel ou tel domaine de créativité ou de réalisation, une sorte de génie, un don. Et nous voilà à nous demander, si nous ne le savons pas déjà, quel est notre talent particulier, ou nos talents particuliers. Parce qu'il est vrai que certaines personnes ont un très grand talent, que certaines personnes ont plusieurs talents. C'est très inégalement réparti, ce talent, comme excellence dans un domaine, même si cela peut se travailler. D'ailleurs, dans la parabole, les talents sont inégalement répartis. 5 à un serviteur, 2 à un autre, et un seul au troisième, et cela à chacun selon ses capacités, tous n'ont pas les mêmes. C'est ce que nous constatons en matière de talent, selon le sens actuel de ce mot. Ce sens actuel vient pourtant directement de la parabole de Matthieu, avec une étape au Moyen-Âge où l'on a commencé à comprendre talent comme étant ce qui rend capable de quelque chose. Puis avec Calvin et d'autres théologiens de son époque, le talent devient un don du Saint-Esprit jusqu'au sens de cette disposition remarquable qu'il a communément de nos jours. Et il est possible d'interpréter la parabole des talents selon ce sens moderne du mot « talent ». Mais en conservant le sens premier, celui de cette mesure pour peser le métal précieux, eh bien, la parabole se déploie aussi très bien. C'est comme ça que Matthieu l'avait écrite. Donc un homme part et confie ses biens, littéralement il les livre à ses serviteurs. Il leur donne ses richesses. Et ça c'est important parce que c'est vraiment un don. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas une gérance pour le temps de son voyage, c'est un don qui n'est assorti d'aucune condition ni d'aucune consigne quant à savoir ce que les serviteurs devraient en faire. D'ailleurs, cet homme connaît assez bien ses serviteurs pour savoir ce dont chacun est capable. Plus exactement, dans le texte grec, il donne à chacun selon sa puissance, son énergie, sa puissance dynamique. C'est-à-dire qu'en deux phrases, en racontant cette parabole, Jésus fait entrer en scène le don, la confiance et la liberté. Cette parabole, dite des talents, est la dernière de l'Évangile selon Matthieu. Et elle est donc inscrite dans le dernier grand discours de Jésus, son dernier enseignement à ses disciples. La dernière fois que Jésus s'efforce de faire comprendre à ses disciples quel est le Dieu qu'il a envoyé et qu'il révèle et comment vivre avec ce Dieu. Et il parle, il insiste, parce que c'est la dernière parabole, il insiste. Le don, la confiance, la liberté. Et il est question d'une richesse donnée, une richesse dont la moindre part, représentée par un talent, c'est déjà énorme, immense. Lorsque cet homme revient et demande des comptes aux serviteurs, ce n'est pas du tout pour récupérer son bien avec des intérêts. Il leur laisse ce qu'il leur avait donné, parce que c'était donné. Il leur laisse ce qu'ils ont gagné en plus, parce que c'est leur œuvre. Et le talent du troisième serviteur, à qui il est retiré ce talent, il ne le reprend pas pour lui, il le donne en supplément à l'un des deux autres. Cet homme ne cherche pas son propre intérêt. Il donne tout. Et de cette figure d'où coule le don, la confiance et la liberté, Jésus donne à reconnaître ce Dieu qu'il appelle Père. Dieu est Dieu qui donne. Et le don de Dieu, c'est le fruit de sa confiance, tout comme il laisse libre celui ou celle à qui le don est fait. Nous le savons bien par expérience. Un don ne peut pas être surveillé par celui qui donne. Sinon, ce n'est pas vraiment un don. Donner, c'est livrer, comme le dit Jésus. C'est laisser ce qui est donné à l'entière disposition de celui ou celle à qui on donne et qui peut en user à sa guise. Alors, les deux premiers serviteurs reçoivent ce qui leur est donné et aussitôt, ils s'en vont le faire valoir. Ce qu'ils ont reçu, ça les met tout de suite en mouvement, une dynamique telle qu'ils gagnent, qu'ils font valoir le double de la valeur de ce qu'ils ont reçu. Ils ne se comparent pas, « Oh, toi tu en as eu deux, moi j'en ai eu cinq. » Non, ils reçoivent le don, la confiance et la liberté qui les anime et cela les rend encore plus capables puisqu'ils se retrouvent avec deux fois plus de talent qu'au départ. Et manifestement, c'est toujours dans leur capacité. Celui qui, au départ, avait la puissance pour recevoir cinq talents, eh bien, d'en avoir gagné, œuvré pour cinq de plus, il a aussi acquis la puissance pour ses 10 talents, ses 5 talents de plus. Et ce n'est pas terminé, puisqu'il en recevra même 1/11e, et ce sera encore dans ses capacités. Autant dire que ce n'est pas tellement une histoire de calcul et de compte, et surtout pas une histoire de cupidité. C'est une histoire de croissance, d'élargissement, d'abondance, d'une dynamique de vie qui est enclenchée par le don, la confiance et la liberté. Ce n'est pas la recherche d'un produit financier, qui motive les deux serviteurs, c'est ce qu'ils ont reçu avec la confiance du maître et dans leur liberté qui accompagne le don, c'est cela qui les soulève, qui les entraîne, qui les rend agissants et même les rend créateurs. Ils ne cherchent pas la performance, mais le déploiement, grâce à cette richesse reçue, parce que dans le don, la confiance et la liberté, il est question de vivre et d'être vivant. Qu'est-ce qui pourrait d'autre intéresser Jésus quand il dit sa dernière parabole ? Jésus ne dit pas ce qu'ils font avec les talents qu'ils ont reçus. Il ne dit pas comment ils s'y prennent, sinon cela deviendrait une consigne, un mode d'emploi. Nous nous sentirions obligés de faire comme eux. Ce qui nous fait vivre, c'est ce que nous recevons, qui nous est donné avec confiance et qui ouvre notre liberté. Les deux premiers serviteurs font confiance à la confiance que le maître leur manifeste. Ils profitent de la liberté qui est ouverte pour en faire un espace d'action et de création. Ils donnent vie à ce qui leur était donné et ce faisant, ils accomplissent leur propre vie. Et lorsque le maître revient, il demande aux serviteurs de rendre compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'il leur avait donné. Seulement, il ne s'agit pas de rendre compte pour tenir des comptes et aligner des chiffres. Ce n'est pas à cela que le maître s'intéresse, et la parabole non plus. Le maître attend un compte rendu de ce que le don a produit en chacun. Ce que fait le maître, c'est d'évaluer, c'est-à-dire de mettre en valeur ses serviteurs. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le gain, c'est l'humain. Et pour ces deux serviteurs, ces deux premiers, qui ne sont pas du tout hiérarchisés l'un par rapport à l'autre, l'appréciation est la même. Ils sont de bons et fidèles serviteurs qui vont entrer dans la joie de leur maître, c'est-à-dire dans une grande proximité avec lui. Ce qu'ils ont reçu les a transformés en les faisant entrer dans cet élan d'abondance en réponse à l'abondance de confiance qu'ils avaient reçue. Le troisième serviteur, c'est finalement à lui que la parabole s'intéresse le plus. Le troisième serviteur, lui, enterre le talent qui lui a été donné. Il le cache. Alors ce n'est pas parce qu'il est fâché d'avoir reçu moins que les deux autres. Mais il ne le fait pas travailler. Il ne le garde même pas avec lui, il le met dans un trou. Pas de dynamique, pas d'engagement, aucune relation. Ce serviteur est comme encombré, terriblement encombré, même paralysé par ce que le maître lui a donné. C'est que le troisième serviteur a peur de son maître. Je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. Ce serviteur a peur de perdre ce qui lui avait été donné. Il le met à l'abri et le déterre sans y avoir touché, sans en avoir rien fait, sans avoir bénéficié ni du don, ni de la confiance, ni de la liberté. Le troisième serviteur n'a pas cru que son maître lui faisait confiance. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un dont on a peur. La peur, ça enterre la confiance. Et donc, avant, cela empêche de recevoir. Le troisième serviteur n'a pas reçu le talent qui lui était donné. Il ne l'a pas fait sien, il n'y croyait pas. Alors il l'a gardé à distance et il le rend à son maître. « Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » La peur l'a rendu hermétique. Et cela n'est pas vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie que Dieu donne. Replié sur sa peur, ce serviteur n'a même pas porté le talent au banquier. Il n'est même pas allé au bout de ce qu'il savait, que son maître allait lui faire rendre des comptes et exiger un profit. Cela aurait dû le conduire chez le banquier si lui-même ne se sentait pas capable de faire fructifier ce qu'il avait reçu. Mais il ne l'a pas fait, même pas. De toute manière, il croit qu'il ne vaut rien aux yeux de ce maître impitoyable et arbitraire. Ce maître qui pourtant lui avait donné un talent et en cela lui avait signifié quelle immense valeur il lui reconnaît malgré tout. Ce que Jésus fait comprendre dans cette parabole, c'est que deux logiques de relation à Dieu et donc deux manières de vivre sont possibles selon la représentation que l'on se fait de Dieu. Samedi au caté, nous avons un peu parlé des représentations de Dieu que nous avons, telles que nous avons quand nous sommes petits, enfants, le vieillard barbu sur son nuage, et puis cela change. D'ailleurs, au groupe Évangile et Liberté, samedi matin, nous avions aussi parlé des représentations que nous avons de Dieu. Lorsque l'on a la représentation d'un Dieu qui prend, qui exige impitoyablement, eh bien cela entraîne une logique de peur, de culpabilité, de devoirs qui n'en finissent pas, d'endettement sans fin. Cela entraîne une logique d'évitement. Je ne m'engage pas. Je me tiens à distance. Cela peut peut-être même entraîner une logique de démission. Si Dieu est comme ça, non merci, je ne prends pas, je n'y vais pas. Dans cette logique, les humains ne valent pas grand-chose et ne valent pas tous la même chose. Alors d'une part, il faut faire ses preuves et toujours rembourser une dette permanente. Et d'autre part, jalousie et rancœur nourrissent la haine et la violence. Et la conséquence en est la désolation, l'isolement, la perte de soi signifiée dans la parabole par le jugement du maître qui est véritablement, en fait, l'aboutissement de ce que pensait le troisième serviteur, le produit de cette logique de la représentation d'un Dieu qui prend. Ce jugement un peu surprenant dans la bouche de Jésus, car il n'y a pas de pitié, c'est finalement le troisième serviteur qu'il avait déjà porté sur lui-même. La représentation d'un Dieu qui donne ouvre à une logique de confiance et de gratitude, d'engagement et d'abondance. Alors il est possible d'agir et de créer. Croire en la confiance que Dieu place en nous, confiance dont Christ n'a cessé de témoigner dans ses paroles et dans ses actes, c'est cela la foi des disciples. La foi de celles et ceux pour qui suivre le Christ, c'est le sens véritable de l'existence. Cette confiance en la confiance de Dieu, cette foi en la confiance de Dieu, c'est l'élan pour la vie, l'élan de vie, que le théologien Paul Tillich appelle aussi le courage d'être. Et dans l'évangile de Matthieu, cette confiance en la confiance de Dieu pour nous est inscrite dès le premier discours de Jésus. Le discours sur la montagne, nous l'avons entendu lorsque Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il est possible de vivre pleinement parce que Dieu croit en nous. Il croit en nous suffisamment, assez, pour nous donner, nous confier sa parole et son esprit, tout ce qui fait vraiment vivre. Il croit en nous assez pour nous donner sa grâce et sa justice. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais il s'agit de recevoir ce qui est donné, de faire confiance à la confiance que Dieu nous fait. Il est possible de s'investir dans sa vie parce que Dieu croit en nous, avec nos qualités, nos manques, nos talents au sens actuel et nos fragilités, parce qu'il nous rend capables, non pas de faire des choses forcément flamboyantes, extraordinaires, mais de vivre sous cet horizon, cette vocation de joie, cette joie qui est dans l'évangile de Matthieu, la signature du Dieu qui donne. Amen. Je vous invite à vous lever pour vous joindre de tout cœur, de votre être entier, si vous le souhaitez, à la confession de foi. Je crois en Dieu dont le royaume s'est approché. Il a voulu dresser sa tente parmi nous. Sa joie est l'être humain debout. Son espérance, notre avancée heureuse dans l'histoire de ce monde. Je crois en Jésus le Christ, son Fils, en qui il s'est reconnu. C'est en lui qu'il a fait habiter la plénitude de son esprit. Il est l'agneau dont la douceur réduit à rien la violence, et son silence ferme la bouche des moqueurs. Il passe parmi nous en proclamant la bonne nouvelle. Il nous guérit de la jalousie et de la haine. Il convoque des frères et des sœurs pour être en Église au service du devenir humain. Je crois en l'Esprit Saint, qui dans l'eau du baptême recrée en nous l'image de Dieu. Sa force change nos esprits encombrés de peur pour les ouvrir à son accueil. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes pour accomplir la venue du royaume de Dieu qui accueille tout homme, toute femme de bonne volonté. Oui, je crois en Dieu qui désire la vie et la donne sans mesure à qui l'espère. Amen. Place. Alors voici les annonces pour ce dimanche. La collecte alimentaire au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. N'hésitez pas à regarder la liste affichée dans l'entrée. N'hésitez pas non plus à vous inscrire. Tu veux dire autre chose, Françoise ? Oui, la liste est affichée sur la porte de la salle de collecte et il y a encore quelques trous pour le mois de mai, donc vous pouvez y mettre votre nom. Donc vous avez compris que vous pouvez aussi vous adresser à Françoise si vous souhaitez plus de renseignements. Aujourd'hui, alors on va aller un peu plus loin que le foyer de l'âme. Aujourd'hui, il y a à Versailles, à la maison des diaconesses de Reuilly, un événement puisque ce sera l'installation dans la charge de prieur d'une nouvelle sœur, Sœur Anne, remplaçant Sœur Mireille, qui a assuré ce ministère de prieur des diaconesses pendant 12 ans. Et c'est un grand événement pour la communauté, pour les amis de la communauté. Je voulais vous le signaler, il y avait eu quelque temps dans l'amitié un article sur les diaconesses de Reuilly. Donc voilà, nous pouvons partager à la fois leur joie et puis... porter sœur Anne, la nouvelle prieure, dans cette charge qui sera désormais la sienne. Donc le culte d'installation sera présidé par le pasteur Christian Krieger, qui est le président de la Fédération protestante de France, puisque les diaconesses ne relèvent d'aucune église particulière, elles sont protestantes. Voilà. La semaine prochaine, eh bien, il y aura mardi l'événement d'une conférence qui est annoncée déjà depuis plusieurs semaines. Il y a une affiche dans le temple, une autre dans l'entrée, à la sortie. Et c'est, où est-il Jean-Paul ? Jean-Paul, voilà, qui va nous parler de cette conférence de mardi 30.
Voilà, cette conférence se fait dans le cadre de l'association culturelle de la Bastille, donc liée à notre communauté, évidemment. Donc, elle a lieu, comme tu l'as dit, le 30 avril, donc à 19h30, au Temple. Elle sera suivie d'un repas partagé, c'est-à-dire pour discuter, débattre, en amenant de quoi, évidemment, partager de la nourriture. Le conférencier, c'est Ben Kramer, que vous avez peut-être vu de temps en temps au temple, qui est... Il est là, alors je ne le vois pas, mais il doit être quelque part. Ah, il se cache un peu, mais rassurez-vous, le jour de la conférence, il ne se cachera pas. Alors, il est enseignant-chercheur, associé donc au groupe de recherche et d'information sur la paix, et il a été impliqué dans plusieurs campagnes au Bureau international de la paix, à Greenpeace, à Frères des Hommes. Voilà, donc vous avez un flyer sur la table et vous pouvez donc le prendre. Donc le titre de la conférence, c'est « Quand les femmes sont à l'avant-garde du combat pacifiste ». Mais je vous rassure, cette conférence est ouverte aux hommes aussi, et donc pas seulement aux femmes, mais c'est intéressant, et je pense qu'il va peut-être s'inspirer des guerrières de la paix, association de femmes israéliennes, juives et de femmes palestiniennes, principalement de Cisjordanie, dans ces temps tragiques que nous vivons, enfin, qui vivent plutôt à Gaza ou en Ukraine ou bien pas ailleurs. D'ailleurs, ces femmes, les guerrières de la paix, se sont inspirées du combat des femmes du Libéria, quand le Libéria, ce petit État, vous savez, d'Afrique de l'Ouest, était en guerre civile. Voilà.
Ensuite, dans la semaine, jeudi 2, eh bien, ce sera, comme tous les jeudis, le jour de la pause spirituelle à 12h30 dans le temple. Notez déjà que le jeudi suivant, le 9, ce sera le jeudi de l'Ascension. Il y aura un culte au foyer de l'âme à 10h30 et il n'y aura pas de pause spirituelle le jeudi de l'Ascension. Mais jeudi 2, il y aura bien sûr de 12h30 à 13h30 la pause spirituelle dans le temple. Et puis samedi 4, eh bien, c'est aussi un grand événement pour l'Église protestante unie en région parisienne, puisque c'est le festival Terre d'Espérance qui se tiendra à la paroisse de Boissy-Saint-Léger. Vous avez été informé par un article dans le dernier bulletin. Il y a également sur un site internet que vous pouvez consulter. Je crois qu'on peut être directement en lien avec ce site à travers un QR code qui est sur l'affiche. Donc n'hésitez pas. Ce sera donc de 9h à 21h, je crois. Il y aura énormément d'activités proposées. Il est hors de question de pouvoir tout faire, parce qu'il y a plein de choses en même temps. Mais un programme extrêmement varié pour les grands, pour les petits, de la pratique, de l'écoute, des moments spirituels, le chant, du chant, des chorales. Enfin voilà. Et énormément de choses à la paroisse de Boissy-Saint-Léger, qui a la chance de disposer d'un très, très grand terrain, d'un bois, enfin bon, voilà, de l'espace, donc qui pourra accueillir. Tous ceux qui viendront. Il y aura également un atelier conduit par Zélie Victor, qui est membre du Foyer de l'âme, que nous connaissons aussi, qui est membre du groupe de jeunes adultes et qui vient régulièrement ici. Donc voilà, et puis Isabelle Veillé, conseillère presbytérale, qui est engagée dans cette organisation depuis le début. Donc le Foyer de l'âme est aussi bien impliqué. Et donc vous pouvez y apporter votre pique-nique ou acheter sur place. Voilà, il y a beaucoup de modalités, de possibilités. Allez voir sur le site, vous verrez que c'est vraiment très très riche. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les, comment dire, pour toutes les sensibilités, pour toutes les questions qu'on peut se poser concernant l'écologie et la foi. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, allez voir sur le site, et puis nous pourrons nous retrouver samedi à Boissy-Saint-Léger. C'est au bout de la ligne A du RER et il faut encore marcher un petit peu après. Dimanche 5, il y aura donc le culte à 10h30, bien sûr. La prédication sera portée par Éléonore Berger, qui était là tout à l'heure. C'est une des monitrices d'école biblique, qui est aussi étudiante en théologie et qui donc s'engage dans la prédication et nous l'accompagnerons, nous l'écouterons dimanche prochain lors du culte. Et comme dimanche prochain, ce sera le 5 mai, premier dimanche du mois, il y aura également une cantate. Alors là, j'ai complètement oublié le titre, le numéro de la cantate de dimanche. C'est indiqué sur le site. C'est l'avant-dernière, puisque le cycle des cantates prendra fin avec la dernière cantate qui sera donnée au mois de juin. Mais ça continuera après avec une nouvelle équipe et toujours des concerts au temple le dimanche, le premier dimanche du mois. Donc ce dimanche 5 mai à 17h30, une cantate de Jean-Sébastien Bach. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Non. Alors, il y a quelque chose à faire. Il y a manifesté une solidarité, une confiance, une espérance et de la joie et de la liberté parce que c'est le moment de l'offrande. Et pendant cette offrande, nous allons chanter et nous nous levons pour chanter le cantique 279 « Confie à Dieu ta route ». Asseyez-vous. Et je voudrais remercier aussi Abel, Jacob et Simon pour leur présence et leur participation à ce culte. On est presque arrivé au bout du chemin de Cathé. Et vous, vous avez fait une longue route au Cathé. Et puis remercier aussi Patrick qui, à l'orgue, nous permet d'avoir une atmosphère un peu différente. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que vous devez chanter haut. Les spontanés habituels ou les cantiques bien connus, c'est que le diapason du piano est au-dessus de celui de l'orgue baroque. Donc c'est pour ça Il nous faut un petit effort qui est parfois difficile à faire. Et voici le moment de nous rassembler dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ta confiance que nous porte ta parole, pour le soulèvement de notre vie que ta confiance produit pour chacun, pour chacune. Nous t'en prions, aide-nous toi-même à recevoir ce que tu nous donnes de grâce, d'amour, de souffle, qui est toujours largement suffisant et même surabondant. Apprends-nous à recevoir, à lâcher nos représentations de toi qui font peur, qui nous coincent dans des culpabilités, des courses au mérite et des aigreurs. Aide-nous à recevoir, à faire silence en nous-mêmes. Aide-nous à ne pas nous laisser happer et envahir par tant de mots et de discours qui ne portent pas ta parole de vie, la vie du Christ que tu veux pour nous. Aide-nous à recevoir. Apprends-nous à lâcher prise sur nos préjugés, sur nos catégories, sur nos hiérarchies, et à laisser ton esprit renverser notre obstination à réussir notre vie par nous-mêmes. Aide-nous à recevoir ta grâce comme une source d'eau fraîche dans le désert, à recevoir ta confiance comme une lumière dans les ténèbres, avec simplicité et reconnaissance. Et nous te prions pour toutes celles et ceux qui vivent dans la peur de toi, la peur d'autrui, la peur de la violence, des bombes, la peur de la famine, la peur des changements et des crises. Ne nous laisse pas ajouter à ces peurs, quelles qu'elles soient, mais rends-nous capables d'ouvrir des fentes, des brèches, des passages. Nous t'en prions au nom de Jésus le Christ qui nous a appris à prier en te disant ce que nous pouvons dire à voix haute ou dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. L'appel de Dieu en Christ libère des idoles qui asservissent et il agrandit l'existence aux dimensions de l'amour. L'appel de Dieu en Christ soulève l'espérance, alors que les chances de voir encore l'arbre fleurir dans les déserts humains semblent desséchées. L'appel de Dieu en Christ rassemble les égarés de la vie qui ont perdu le goût et la lumière du jour. L'appel de Dieu en Christ est un cri de vie. Quiconque l'entend et y répond est pour toujours arraché à la mort. Amis, frères et sœurs, nous sommes tous appelés. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec chacun de vous, qu'il vous bénisse dans votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa paix et sa joie. Amen.